Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100€ par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h11, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Et après le jardin, et avant de retrouver tout à l'heure Christian Riquia en pleine forme pour ses conseils santé de la rentrée, avant tout cela, eh bien, c'est le bricolage, c'est la maison, c'est la déco. Et c'est avec Christian Pessé, mesdames, messieurs.
Mais bonjour, oui, Christian. Je suis là, bonjour François, ça va?
Bah écoutez, ça va bien. Alors tout à l'heure, vous allez lever le poing, un petit peu comme Amel Bent lorsqu'elle le chantait dans sa chanson.
Oui.
Parce que vous êtes contre la probable hausse de la taxe foncière.
Ah,
et
oui.
Là, quand on touche au denier de Christian Pessé, d'un coup, ça rigole
moins. Ah, non, mais attendez, là, on va vers ce que j'appellerais une arnaque fiscale dans très peu de temps. Quoi.
Une arnaque fiscale. Ouais. Alors, d'un côté, on nous enlève la taxe d'habitation.
Oui,
et de l'autre côté, la taxe foncière augmente.
Alors, vous me direz qu'elle n'a pas augmenté. Enfin, le système, la valeur locative n'a pas augmenté depuis des années. C'est vrai,
oui.
Encore que ça augmentait toujours un petit peu, mais là il y a un truc qui se profile qui est lié aussi à l'exonération des plus-values sur on verrait pourquoi c'est lié sur les habitations principales. Je pense qu'il va y avoir un retour de bâton, ça commence déjà.
On en parle tout à l'heure, ce sera votre coup de gueule. Notre sujet, notre dossier de ce samedi matin, c'est la peinture.
Oui,
mon
le
cher
sujet
Christian.
Principal, ça va être la peinture parce que souvent on a envie de redonner un coup de frais à sa maison, à son logement, en cette rentrée. Et donc, nous allons parler peinture avec Sophie Béguéni, qui est responsable de ce secteur, c'est Rustoleum.
Tout à fait. Vous n'avez pas choisi ce sujet parce que vous êtes au bout du rouleau.
Non,
c'est pas votre genre.
Ouais. Et puis, pas non plus parce que je me brossais, quoi.
Elle est moins bien, ça.
Elle est moins bien.
Enfin, en toute amitié,
oui,
hein, je pense que la mienne est vraiment meilleure. La vôtre est un peu en dessous.
Ouais.
La compétition, là, n'est pas au niveau. Le 32-16, bien sûr, si vous voulez poser vos questions peinture, c'est le moment ou jamais. Hein. Peut-être, comme l'a dit Christian, la rentrée est synonyme pour vous de changement un peu dans votre appartement, dans votre maison. Vous avez envie de repeindre le salon ou la chambre du dernier ou du premier ou votre chambre. Hein. N'hésitez pas. 32-16, si vous avez des questions. 32-16, l'appli RMC direct studio. Vous nous laissez votre numéro de téléphone si vous nous joignez via l'appli RMC avec votre question. Ça nous permettra de vous rappeler très vite. Et avant de retrouver le conseil de l'expert de Christian, c'est Martine que nous accueillons au 32-16 avec beaucoup de plaisir. Bonjour,
oui,
Martine.
Oui, bonjour.
Bonjour,
Christian.
Martine.
Bonjour, François.
Bonjour, Martine. Vous nous appelez d'où?
De Nice.
De Nice.
Ah, bien.
Très bien. Bah, écoutez, ça va. Vous, la vie est belle à Nice, Martine. Bon,
oui,
ça va.
Oui, hop. Vous n'avez pas l'air tout à fait.
Non, mais
oui, ça va très, très bien.
Bah alors, c'est bien.
Ah, la French Riviera, Christian. Mais vous connaissez bien, hein,
Je connais très bien.
Vous pouvez de temps en temps, d'ailleurs, Martine, voir Christian Pessé rouler en décapotable hein, sur la Côte d'Azur.
Oui, ça m'arrive, mais.
Oui, je sais qu'il a une petite maison dans l'arrière-pays.
Enfin, un grand château.
Voilà,
une petite maison, pour ne pas se faire remarquer. Alors, Martine, qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Pourquoi vous nous appelez?
Bon, alors, donc, je suis en appartement dans une copropriété. Je voudrais refaire la salle de bain.
Oui, bonne idée.
parce que je suis senior.
Oui.
Et donc, je voudrais remplacer la baignoire par une douche.
Ah, bonne c'est idée. Ça ne sert à rien, la baignoire.
Et pourtant... Pourtant, les bains, enfin, moi, c'est ce qui me plaisait le plus. Mais
vous aimez les bains.
Il faut être raisonnable.
Et voilà,
mais
exactement.
Mais à Nice, vous avez d'autres manières de vous baigner. Vous avez la Méditerranée qui n'est pas loin.
Voilà, oui, bien sûr.
Donc,
mais
alors,
c'est juste les mois d'été.
Oui, c'est donc vrai. Quelle est votre question, Santé?
Alors, donc, je voudrais savoir donc, s'il faut l'autorisation de la copropriété.
Oui.
Pour faire ses travaux.
Oui.
Après, s'il faut,
ça dépend. Si vous remplacez.
Comme vous en parlez souvent, l'assurance dommage ouvrage.
Ça peut se faire, mais c'est difficile à obtenir. Mais c'est possible. Mais bon, sur simplement le remplacement d'une baignoire par une douche, on va pouvoir s'en dispenser. Hein.
Oui, mais enfin, il y a peut-être aussi. Peut-être le carrelage, il faut peut-être revoir, non ? Parce que comme on a le vent la baignoire, ça va casser le...
Oui, bien sûr. Mais le carrelage n'a rien à voir avec le dommage ouvrage, puisque le dommage ouvrage est lié à la décennale et que le carrelage collé, par définition, n'est pas pris en charge par la décennale. Donc, vous n'avez pas de problématique de ce côté-là.
Ah,
c'est
d'accord.
Simplement qu'il peut y avoir une extension sur la plomberie, mais c'est pas absolument indispensable. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que ce soit bien fait par un vrai pro. Parce que vous allez, évidemment, il peut y avoir des conséquences. À partir du moment où vous changez véritablement de type d'équipement, il faut que vous préveniez le syndic pour que vous n'ayez pas de soucis derrière.
D'accord.
Voilà, sur ce sujet.
D'accord. Et d'autre part, donc, comme je suis senior, donc je voulais savoir si c'est une possibilité de crédit d'impôt.
Ou alors, des aides.
Et si c'est lié aux éléments, ben, il doit y avoir des...
Alors, jusqu'à il y a quelques temps, c'est-à-dire jusqu'à il y a 2 ans environ, il y a eu une très très grande libéralité à ce sujet. C'est-à-dire qu'il suffisait, quel que soit son âge, il suffisait de refaire un équipement lié à la mobilité pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 25%. C'est fini. C'est fini. Il faut que vous ayez la démonstration que vous avez une perte d'autonomie, que vous avez un handicap. Il y a un système très compliqué maintenant et qui fait que c'est très très restrictif.
Donc alors, il faut aller voir un médecin qui délivre un certificat.
Puis après il va y avoir une appréciation de ce qu'on appelle le GIR de 1 à 4. C'est bon. On pourra y revenir. J'ai prévu de traiter prochainement d'une mission sur ce sujet, parce qu'il va y avoir en plus une réunion interministérielle très importante dans les semaines qui va venir pour justement recadrer un petit peu tout cela. Alors, pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'une pension d'invalidité, qui ont ce qu'on appelle la carte mobilité-inclusion, à des taux importants, c'est-à-dire il faut commencer à être vraiment handicapé pour avoir une perte de mobilité. Alors là, il y a un crédit d'impôt de 5 000 euros sur 5 ans si vous êtes seul, 10 000 euros en couple et comme classiquement 400 euros de plus pour les personnes à charge. Le crédit d'impôt est de 25%. Alors, j'en profite pour pousser un coup de gueule, c'est complètement idiot. C'était le système antérieur qui était le meilleur. Évidemment, il était peut-être un peu dispendieux pour l'État, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Or là, on essaie de guérir. C'est-à-dire que c'est quand on est encore d'aplomb qu'on devrait bénéficier de cela pour éviter justement les chutes, les accidents, etc. Or, maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut déjà que vous démontriez que vous êtes invalide pour arriver à avoir des aides, ce qui est complètement, à mon avis, stupide. Voilà, j'en profite,
bien sûr.
C'est un peu aberrant, ouais,
voilà,
c'est sûr.
Voilà.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous voulez ? On serre les robinets partout. Hein.
C'est qu'à le dire.
Et là, cette semaine, là, j'ai entendu dire que maintenant, lorsqu'on fait des travaux, il faut d'abord faire une recherche d'amiante.
Ben, ça ne vous concerne pas, vous, ça concerne c'est l'entreprise qui effectivement, doit faire une recherche d'amiante pour son personnel, mais ce n'est pas vous qui aurez à le faire.
Ah bon.
Voilà, Martine.
Très bien.
Martine,
eh ben merci beaucoup.
Bon week-end à Nice.
Eh ben merci, vous aussi. Bonne journée à tous les deux.
Et donc, bonne douche hein, pour le futur.
Bah oui, attendez, elle n'a pas encore. Donc, on verra bien, mais en tout cas, c'est bien parti. 7h19, c'était RMC. Il est temps maintenant de retrouver le conseil de Christian Pessé.
RMC, votre maison.
Le conseil béton. De Christian Pesset.
Christian, attention, en ce samedi matin, vous allez nous donner des éléments de réponse concernant le fait de traiter les insectes du bois.
Voilà, la semaine dernière, j'ai parlé de l'identification des insectes du bois. Alors, en fait, il y a deux catégories d'insectes, ce sont les insectes xylophages, ceux qui pondent dans le bois et dont la larve se développe jusqu'à 15 ans dans le bois, c'est incroyable. Et puis, il y a les autres qui sont les insectes sociaux, termites, fourmis, etc., qui, eux, ramènent la cellulose dans la termitière ou dans la fourmilière pour la nourrir. Alors, pour commencer, les larves des insectes xylophages, donc je vous disais, ça passe des années dans le bois à le grignoter avant de se métamorphoser donc en insecte et faire ce petit trou, dit trou de ver, qui peut être plus ou moins important suivant l'insecte, tout petit pour les vrillettes, assez conséquent pour, par exemple, les capricornes. Alors, comment on lutte contre ces insectes ? Eh bien, deux solutions, qui peuvent être complémentaires, d'ailleurs. L'imprégnation de surface, alors on badigeonne, tout simplement, les pièces de bois qui sont concernées par ces attaques. Alors, c'est la méthode qui va être la plus pratiquée, par exemple, pour les parquets, pour les meubles, pour les lambris. Et puis, l'injection de produits sous pression suivie d'une pulvérisation de surface. C'est la méthode la plus efficace et qui notamment est utilisée pour les charpentes. On peut aussi pratiquer une diffusion progressive du produit alors par gravité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce sont des petits récipients, des petits entonnoirs. On perce le bois, on les met donc dans les charpentes. Mm-hmm. On remplit et puis ça s'imprègne doucement par un on va dire ça imbibe le bois. Alors tout ça se fait après sondage avec un poinçon par exemple, et puis on gratte, on enlève évidemment les parties qui doivent être on va dire bûchées. On parle de bûchage, il n'y a pas que vous qui bûchiez pour vos études, mais maintenant on bûche le bois également, et puis on le brosse. Alors on a longtemps utilisé des produits insecticides et on en utilise encore qui sont assez agressifs, et maintenant on va de plus en plus vers des produits qui sont à base d'huile essentielle, de résine, de résine végétale. Il y a même des cas où on ne tue pas directement l'insecte, mais on l'affame. Comment on l'affame ? C'est-à-dire qu'on lui fait perdre l'appétit. C'est incroyable, ça. On lui fait perdre l'appétit, donc la larve, elle ne mange plus. Comme elle ne mange plus, elle meurt. C'est tout bête.
C'est un peu vicieux.
Vicieux. Une règle, toujours des produits labellisés, c'est TBA+, qui vont vous garantir l'efficacité du produit et l'innocuité pour l'homme. Les termites, c'est complètement différent. L'éradication est strictement du ressort des pros. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une barrière chimique par injection au niveau de la maçonnerie et des bois. Et puis des pièges à part répartis dans le jardin. Alors là, la méthode, elle est aussi assez vicieuse, c'est que on fait des petits pièges, des petites boîtes avec des trucs à becter pour les termites qu'elles aiment bien, qu'elles préfèrent même encore.
Alors on dit pas becter à la radio, on dit manger. Pardon.
Ah oui, pardon, c'est vrai. Je suis navré.
Non, c'est pas grave.
Bon, qu'est-ce que font les termites ? Ils mangent ça ? Vous entendez la termite qui grignote ?
Ouais.
Je me suis entraîné, j'ai écouté comment ça faisait. Et donc, la termite ramène ça dans la termitière, ou les fourmis, c'est pareil, et ça empoisonne la termitière.
Un peu comme le produit qu'il y avait pour les fourmis, là, qui a été...
Ah ouais, c'est interdit, il y avait des produits à base de cyanure.
Oui, oui.
Là, maintenant,
mais c'était super efficace, ça. Hein.
Ah oui, c'était efficace. J'en profite pour dire attention aux charlatans qui sillonnent le pays pour venir vous dire « Oh là là, j'ai appris qu'il y avait une infestation, une épidémie. On vient de la part de la mairie ou on vient de la part du conseil départemental. » Tout ça, ce sont des escrocs. Ne vous laissez pas avoir, de toute façon. Les termites, c'est assez dangereux, mais le reste, ça se traite assez facilement. Donc, ne vous laissez pas avoir.
Au pire, si on veut savoir, on veut avoir le carnet, c'est le diagnostic termite.
Voilà, c'est le diagnostic parasitaire.
Ah, pardon.
D'accord.
Et dans le diagnostic parasitaire, il y a le diagnostic termite.
On peut faire aussi, donc, effectivement, un diagnostic. Rappelons que si on a des termites, on est obligé de les déclarer à la mairie.
Chacune ou
non, individuellement.
Parce que ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup.
Écoutez, j'en ai compté 464.
Oui, c'est même peut-être des milliers.
J'ai ma femme au téléphone.
C'est des milliers d'ailleurs, quand il y a une
attaque. Bien sûr.
C'est des milliers. Donc voilà, et une recommandation simple, ne faire confiance qu'à des entreprises certifiées CTBA+.
Parfait. Christian, on revient dans un instant et on va parler peinture.
Oui.
Sortez votre pinceau, rouleau. Avec Christian Pesset dans un instant, on va repeindre la maison et surtout, on va vous donner des conseils. Et si vous avez des questions sur ce sujet, parce que vous avez envie de repeindre votre salon, votre chambre, allez-y, 32-16. Comment prépare-t-on, tiens, un mur pour la peinture?
Ben oui, ça, c'est important.
Vous allez nous donner tous les conseils avec notre invité. 32-16, l'appli RMC sur votre smartphone, Direct Studio. Vous nous laissez votre message écrit et vous nous laissez aussi votre numéro de téléphone. On peut vous rappeler dans quelques instants.
RMC, 7h-8h, votre maison, François Sorel,
Christian Pesset.
Moi, je ne pouvais pas vous parler parce que Christian Requia me faisait la bise. Et ça dure un quart d'heure. Bon, c'est ça le problème. Merci d'être là. 7h30, c'est RMC. Christian Requia vient d'arriver. Et on va le retrouver pour notre rendez-vous Forme Santé dans une demi-heure. Christian Pesset.
France,
vous ne me faites pas la bise comme Christian Requia.
Non,
et je suis un tantinet jaloux.
Oui, j'ai remarqué.
Il va falloir quand même régler ce petit problème. Tout à l'heure, votre coup de gueule, on va parler d'une éventuelle augmentation des taxes foncières et ça vous met hors de vous.
Oui, ça a commencé déjà dans certaines régions.
Mais auparavant, notre dossier de ce samedi matin, et d'ailleurs, on vous invite à réagir, à poser vos questions sur la peinture, puisqu'on va maintenant vous proposer un spécial peinture. Comment bien la choisir?
Oui, comment bien la choisir et puis aussi comment bien l'appliquer, parce que c'est vrai que la choisir, c'est pas toujours simple lorsqu'on est devant un rayon de supermarché de bricolage. Il y en a beaucoup et en fin de compte, souvent, on choisit en fonction de la couleur, mais pas en fonction de ce qu'on va en faire. Et puis, on va voir aussi les problèmes liés à la santé. Christian Requin n'est pas loin. Il y a maintenant des peintures qui sont... De toute façon, globalement, la nocivité a reculé, hein, parce qu'elle était quand même, c'était pas mal. Hein, le solvanté avant, on en prenait quand même plein les narines. Maintenant, ça, on
et
va voir.
Pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ça a disparu. Mais il y a aussi maintenant des peintures, véritablement, qui sont dépolluantes, qui sont insecticides, qui sont même bactéricides. On verra ça avec un représentant de chez Onip.
Des peintures dépolluantes, voilà. C'est ça, voilà. En quelque sorte.
Oui, bien sûr. Qui cassent les formaldéhydes. Donc, ça existe pour les plaques de plâtre, ça existe pour maintenant pas mal de produits. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on est avec Sophie Beghelli. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes responsable de secteur chez Rustoleum.
Tout à fait.
Qui est une marque qui produit à la fois des peintures techniques et des peintures décoratives, on peut dire. Rustoleum, c'est pas la plus... je ne vous fais pas d'injure en disant que c'est pas la plus connue des marques de peinture. Vous êtes... c'est quoi? Quelle est l'origine de Rustoleum?
Alors, l'origine de Rustoleum est une marque anglaise.
Oui.
On est connu au départ pour notre peinture anti-rouille universelle, qui est aussi en, alors l'universal est en gamme grand public, mais qui est aussi connu pour notre gamme pro. Et depuis quelques années, on développe une gamme consumer pour les grands magasins de bricolage.
D'accord. Alors, le grand débat depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement le passage des peintures solvantées. Globalement, qu'on appelait les peintures à l'huile, hein, aux peintures dites en phase aqueuse, c'est plus noble, hein, phase aqueuse que peinture à l'eau. Mais est-ce que véritablement aujourd'hui, on a des peintures à l'eau, des peintures en phase aqueuse qui sont aussi performantes que l'étaient les peintures solvantées?
Aussi performante. L'avantage d'une phase aqueuse, c'est qu'elle est à l'eau, donc on nettoie ses outils à l'eau. C'est plus facile à étaler. Ouais. Et puis, il y a le même rendu, le même fini.
C'est quand même plus difficile d'avoir une vraie laque en phase aqueuse que lorsqu'on était en phase solvantée.
C'est une question de préparation. Tout est dans la préparation en peinture.
Il ouais.
Faut bien préparer ses fonds. Une peinture en phase aqueuse, il va peut-être falloir, suivant votre support, si vous avez un support poreux, style Béatrice, ce genre de choses.
Béatrice, c'est plaque de plâtre. Hein.
Voilà. Une sous-couche. Sinon, si vous avez déjà une peinture en phase aqueuse de mise, vous nettoyez votre mur et vous faites votre peinture traditionnelle.
Alors justement, vous m'amenez sur un terrain là, que je n'avais pas forcément prévu, qui est celui, dans mes questions, mais qui est celui de la plaque de plâtre. J'avais une question il n'y a pas encore très longtemps, de quelqu'un qui me disait, mais alors est-ce qu'il faut enduire la plaque de plâtre ou est-ce que ça suffit aujourd'hui de prendre une plaque dite à peindre et de mettre par exemple deux couches? Est-ce qu'il faut mettre un primaire?
Quelle est votre préconisation là-dessus ? Il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça aujourd'hui.
Tout à fait. Il y a plusieurs cas de figure. Si ça va être une peinture qui va aller dans une pièce humide, effectivement, on va mettre une sous-couche, enduire, mettre une sous-couche et deux couches de peinture.
D'accord.
Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire pour faire les choses dans les règles de l'art, comme l'on dit.
D'accord. Nous avons Isabelle au 32-16, messieurs, dames. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Bienvenue, Isabelle.
Isabelle. Vous nous appelez de quel endroit ?
Ah, je suis en Bretagne.
En Bretagne.
Entre Rennes et Redon.
Parfait. D'accord. Et on vous écoute attentivement, Isabelle.
Voilà. En fait, j'ai vu partout de la publicité pour des nouveaux rouleaux pour la peinture avec un réservoir intégré, une espèce de mousse.
Oui.
Et je voulais savoir si c'était vraiment efficace par rapport à un rouleau traditionnel, si le résultat était satisfaisant.
Ah, c'est les trucs qu'on voit au téléachat, là.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Ah bon. Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je ne veux pas être méchant.
Après, vous allez nous donner votre avis.
Tout dépend ce qu'on a à faire comme peinture. Vous avez un petit meuble en bois ou que sais-je, enfin un petit support. Oui, vous pouvez y aller. Faire toute une pièce comme ça, je ne conseille pas trop.
Ben, moi, je pense que... Moi, je dirais que... Alors, attention, il faut toujours être très prudent dans tout ce qu'on voit à la télé, dans les téléachats et ça. Vous avez des gens, ah, c'est fabuleux. Et puis,
ils font ça tellement bien.
Ensuite, quand ça vous arrive chez vous, c'est un peu plus
délicat. C'est comme les trucs qui projettent la peinture.
C'est pour ça que je demande votre avis, justement.
Voilà. Alors, donc, moi, je pense qu'un bon rouleau adapté à la peinture, et, au fond, et adapté au résultat qu'on veut obtenir, parce que ces rouleaux-là souvent sont assez universels, on va dire, alors que on sait qu'il va falloir pour une laque, on va avoir un rouleau à poil très court, hein, on va dire, pour ce qu'on appelle en mohair, qui est pas du mohair évidemment, mais qui est synthétique, mais qui va permettre d'avoir par exemple un rendu brillant, mais extrêmement intéressant. Moi, je suis pas sûr que ce genre de... Si vous savez, hein, le problème est simple, on ne voit aucun professionnel utiliser ce type de matériel. Donc si c'était plus performant que les matériels classiques, les pros les adopteraient, les prendraient. Et puis, ça coûte aussi bonbon en général. Hein. Voilà ma réponse et notre réponse.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Merci Isabelle. Bonne journée.
Sophie, problème de préparation des fonds. Je pense que ça, c'est priorité à ce qu'on appelle préparation des fonds, c'est-à-dire la préparation du mur.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reboucher tout ?
Si on a des trous, on les rebouche, parce qu'évidemment, aucune peinture ne cache les trous, d'accord ? Donc, on rebouche les trous, on enduit s'il y a besoin, on fait un enduit de rebouchage, un enduit de lissage, et une sous-couche, et une peinture de finition, bien entendu.
D'accord. La notion de primaire, parce qu'on entend parler de primaire,
C'est la sous-couche.
C'est la sous-couche. Sous-couche et primaire, c'est la même chose.
C'est la même chose.
D'accord.
C'est juste la personne que vous avez en face de vous qui va vous parler de primaire ou de sous-couche.
D'accord. C'est d'une couleur neutre ou c'est de...
En général, c'est blanc.
En général, c'est blanc.
À part si vous faites un mur très gris ou très noir, là, il peut y avoir des sous-couches grises.
D'accord, ça sert à quoi ? Donc, à nourrir le fond, en quelque sorte, à boucher
tout
les pores ?
Tout à fait, à nourrir le fond, à faire que votre support va absorber la peinture primaire et pas la peinture, ce qu'on appelle la peinture secondaire, c'est-à-dire la peinture de finition.
Voilà, la problématique, c'est ça. C'est pas seulement pour rendre le support plus lisse, c'est pour éviter que, notamment l'eau, en l'occurrence, puisqu'on est en phase aqueuse, que l'eau soit absorbée par la maçonnerie.
Tout à fait.
Nous avons Cynthia au 32-16. Place à vos questions, vous le savez en priorité. Cynthia, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, Cynthia.
Eh bien, merci.
Vous nous appelez d'où ?
Je suis très heureux. Alors, de Dordogne.
De Dordogne.
Très bien.
Très bien. Vous êtes bien réveillée, tout va bien, ça va ?
Oh oui, j'écoute depuis ce matin, oui, depuis 6 heures.
Ben c'est parfait, c'est très bien. Vous avez bu un petit café aussi, Cynthia, quand même, ou pas ?
Oui. Qu'un petit café.
Allô ?
Oui, vous avez bu un café ? Un petit café ?
Oh non, pas encore.
Pas
non.
Encore.
J'ai un petit bout, oui, il fallait s'en occuper d'abord.
Ah oui, c'est
d'accord,
vrai.
D'accord.
Alors, vous avez une question concernant la peinture de votre salle de bain, je crois.
Oui, voilà. Alors, en fait, on va acquérir une nouvelle maison. Et il y a c'est une douche avec baignoire.
Oui.
Et ils ont mis des carreaux seulement jusqu'à... Enfin, pas jusqu'au mur.
Pas jusqu'au plafond, pardon. Oui.
Voilà. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qu'il fallait mieux. Est-ce qu'il faudrait peindre cette partie-là ? Parce que la douche, il y a un escalier, donc c'est un peu en hauteur. Donc, au fond de la douche, je pense que ça va faire des projections d'eau. Voilà. Alors, donc, quelle peinture faudrait mettre pour continuer jusqu'au plafond? Et puis, sinon, est-ce qu'il faudrait peut-être remettre des carreaux ou... Comment ça se fait maintenant?
Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'on a souvent cette configuration dans des maisons. On n'a pas voulu carreler, par économie peut-être, jusqu'en haut du mur, donc jusqu'au plafond, voire sur les côtés. Alors, est-ce qu'il y a véritablement, dans vos gammes, par exemple, chez Russolium, est-ce qu'il y a véritablement des peintures qu'on peut considérer comme remplissant la même fonction qu'un carrelage au niveau d'une salle de bain?
Alors, dans nos gammes à nous, oui, on a une peinture qui s'appelle l'effet mural poudré, qui peut se mettre au-dessus d'1,50 m.
Alors, c'est pas une laque, c'est poudré, vous me dites.
C'est un effet mat poudré, oui. Parce que la grande tendance, c'est plus trop les brillants, les laques, c'est plutôt les mats.
Oui, mais techniquement, c'est quand même, si je suis dans une salle de bain, l'eau va ruisseler. Si je suis poudreux, ça va pas me permettre.
Non. Ça fait, c'est, quand on dit poudré, c'est un effet mat, mais doux au toucher.
D'accord. Techniquement, là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi une sous-couche.
Pas
forcément.
Non.
Les peintures salle de bain, c'est quoi? C'est du Milan?
Ah non. Elle peut mettre une peinture salle de bain.
C'est-à-dire, il y a véritablement une caractéristique spécifique aux peintures salle de bain ou c'est du marketing?
Non, c'est-à-dire que les peintures salle de bain, elles ont peut-être une spécificité supplémentaire du fait que ça protège un petit peu plus de l'humidité.
D'accord. Voilà. C'est le côté hydrofuge. Non, pas forcément.
L'hydrofuge, c'est plus pour le feu, pour l'humidité. Oui, non. C'est pas hydrofuge, une peinture salle de bain.
D'accord, très bien. Alors, la question, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la nocivité des peintures, l'émission de COV, donc de composants organiques volatiles. Maintenant, c'est réglé. Toutes vos gammes sont justement sans COV ou avec un minimum de COV.
Et pour compléter ce que vous dites, on a Hervé qui nous dit: pourquoi certaines peintures acryliques donnent-elles des maux de tête pendant plusieurs jours? C'est ce qu'il a ressenti chez lui.
Oui.
Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un peu...
Ouais. Bah, on va en parler justement avec notre autre invité qui est Patrick Verlac.
Ça peut donner mal à la tête, ce type de, peinture ou pas?
Non, c'est plus peut-être parce qu'il a peint avec autre chose à côté, dans une pièce fermée où il faisait chaud. Il y a peut-être plusieurs...
Plusieurs facteurs qui font qu'il a mal à la tête.
D'accord, on prendra Patrick Verlac tout à l'heure.
Exactement, Christian, je ne peux rien vous cacher, c'est terrible. 7h41, spécial peinture ce matin sur RMC dans ce week-end des experts maison. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Tiens, on a Xavier aussi qui nous dit: j'ai des murs rouges que j'aimerais repeindre en blanc. Et comment je dois faire?
Plusieurs couches.
Douze couches, en fait, nous dit Christian Ekia, qui est médecin peintre. Hein, c'est ça, vous avez sur votre carte de visite médecin peintre, je crois bien. On revient dans un instant. A tout de suite, c'était RMC.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Pratiquement 8h moins le quart, c'était RMC, le week-end des experts, la maison et la peinture avec Christian Pessé, nos invités ce matin. Tiens, Christian, Rikia s'est immiscé dans notre discussion pendant la pub, oui. Christian, parce qu'on parlait de l'éventuelle nocivité de la peinture.
Oui, alors justement, il y a une labellisation, on va en parler notamment avec Patrick Verlac dans quelques instants, mais c'est l'étiquetage environnemental avec le A+. Hein.
Tout à fait. À partir du moment où on est fabricant de peinture, il y a des normes européennes via toute la loi Grenelle de l'environnement, et il faut absolument respecter ces règles, aussi bien pour les phases aqueuses que pour les peintures solvantées. Il y a des sigles à mettre, et pour les phases aqueuses, nous chez Rustoleum, on n'a que du A+, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut utiliser nos peintures sans avoir de problème d'allergie, de maux de tête, et encore plus avec notre dernière peinture qui est 100% à l'eau, l'aérosol colère.
Il existe beaucoup de peintures qui ne sont pas encore A+, justement.
Pratiquement, je pense plus qu'on en voit beaucoup sur le marché. En tout cas, on n'a plus de solvanté pour l'intérieur, hein, ça c'est clair. Hein.
Oui.
On va parler donc avec Patrick Verlac, qui est directeur technique chez ONIP. Bonjour, monsieur Verlac.
Bonjour, monsieur Bessé. Bonjour, tout le monde.
Bonjour. Alors, vous avez une gamme assez large, mais vous avez une spécialité que sont ces peintures, je veux dire, justement, très respectueuses de l'environnement et aussi qui ont une phase active, je dirais. On vous avait eu d'ailleurs il y a quelques années sur ce sujet. Vous avez des peintures, par exemple, dépolluantes. Comment ça marche ?
Oui, alors c'est vrai que nous, notre spécificité à l'ONIP, hein, nous sommes un fabricant français avec des usines en France, une pleine mission mondiale, et en fait notre ADN, c'est vraiment l'innovation. Effectivement, sur la peinture dépolluante, on a été les premiers en 2013 à lancer toute une gamme qui permettait d'assainir l'air intérieur, et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, spécifiquement le formaldéhyde et tous les composés qui tournent autour du formaldéhyde.
D'accord, donc ça les casse en quelque sorte, hein, ça casse les molécules, c'est ça ?
Alors ça, c'est exactement, il y a une réaction chimique, d'ailleurs on a fait un brevet là-dessus parce qu'on était vraiment les premiers à mettre au point cette réaction chimique dans une matrice peinture. On capte les molécules de formaldéhyde dans l'air, présentes dans l'air, et on les détruit réellement. Donc il y a une pérennité effectivement du système, voilà. Mais qui est quand même large puisque ça va jusqu'à au-delà de 10 ans. Donc il y a pas de.
Ça marche très bien. Ouais, c'est le même système qui est utilisé dans les plaques de plâtre. Il y a eu beaucoup d'interrogations sur la question, mais maintenant c'est attesté, c'est prouvé, quoi.
Oui, c'est ça, c'est à peu près le même système. Alors il y a aujourd'hui différentes technologies qui existent, hein, depuis 2013. Soit c'est des additifs, soit c'est des polymères bien spécifiques, ou soit c'est de la photocatalyse également, mais là ça nécessite une énergie lumineuse qui permet de détruire le composé formaldéhyde.
D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez des peintures, alors ça va intéresser Christian Ricard qui est à côté de moi, des peintures bactéricides.
Alors, alors attention au terme bactéricide, parce qu'on n'est pas là pour... Le terme bactéricide n'est pas forcément très bien
traduit.
En fait, on a des peintures aujourd'hui, d'ailleurs dans notre cette gamme de peintures qui s'appelle la Bélonique chez nous, qui dépollue l'air intérieur, a aussi un agent antibactérien. Là, c'est plus le terme qu'il faut utiliser, c'est-à-dire que lorsque vous posez votre peinture, sur votre mur, il y a toujours des bactéries qui vont se poser, des bactéries classiques, hein, on en a sur nos mains, etc. Et en fait, elles sont autodétruites par cette peinture-là.
D'accord,
donc on a vraiment un assainissement à la fois de l'air intérieur, mais également de la surface du mur.
Christian,
d'une façon générale, quand on peint une pièce, on assainit la pièce en tant sur plan bactérien. Donc c'est toujours bien d'assainir une pièce avec une peinture. Quand on a une peinture à l'eau, les éthers glycols des peintures à l'eau des années 2010-2005 existaient et ces éthers glycols étaient très bactéricides. Aujourd'hui, il faut voir si ces peintures, avec les nouvelles normes, ont les mêmes capacités bactéricides dans des années 2010. C'est ça la question qu'il faut poser.
Merci pour ce conseil santé, Christian.
C'est le cas ?
Alors nous, par exemple, on a effectivement des PV, des essais qui sont faits par des tierces parties, des laboratoires, hein, certifiés et reconnus, qui vous montrent qu'on détruit vraiment, réellement, plus de 99,9% des bactéries qui sont présentes dans une pièce classique.
Alors les peintures anti-odeurs, parce que moi, je vais bientôt en mettre, parce que j'ai ma fille qui est un petit peu chez moi en ce moment et qui fume, et ça me... je ne sais pas si elle m'écoute.
Règlement de compte familial sur l'antenne.
Il faut qu'elle arrête de fumer.
Mais Christian, il faut qu'elle rencontre Christian Ricard.
Tout à fait. Mais alors donc, ces peintures anti-odeurs, ça a véritablement une efficacité ?
Ah oui, alors ça, je peux vous le certifier. Et là, je suis assez fier de dire au effort que là, ça fait depuis 4 ans maintenant qu'on a lancé une gamme qui s'appelle Clean Odeur. On est les seuls en France. Là aussi, c'est une technologie brevetée qui permet réellement de détruire toutes les mauvaises odeurs. Alors, vous parliez de tabac, c'est exactement ça, comme type d'odeur. Mais vous avez aussi des odeurs d'humidité, d'espèces d'odeurs de moisissure, vous voyez, d'un peu de renfermé, de cuisine, donc tout ce qui est...
Et comment ça marche ?
Il y a des odeurs de gras, etc. Ouais, ça détruit ces odeurs-là, et aussi des odeurs de corporelles, par exemple, de transpiration, etc.
Ah, d'accord. Alors, on peut se repeindre avec sous les bras, donc, pour éviter de...
Ça, je ne sais pas si...
C'est une peinture Patrick au Chanel numéro 5
C'est ça. Je ne sais pas si Patrick va nous conseiller ça.
Ouais.
Parfait, merci beaucoup, Patrick.
Merci, Patrick Verlac,
vous
êtes... directeur technique chez Onip.
C'est étonnant, hein, comme maintenant, ouais, il y a des peintures qui font plus que repeindre une pièce.
Des peintures, ça, de très belle qualité en plus.
On n'a pas posé la question du prix, mais j'imagine qu'il y a un surcoût pour toutes ces peintures santé.
Oui, bien sûr. De toute façon, la peinture est chère, hein, faut quand même le savoir. Et la peinture pas chère, c'est forcément de la peinture bas de gamme, c'est forcément... pas dire de la mauvaise peinture, mais il faut être très, très attentif.
Sophie Béguéli, ça coûte combien un litre de peinture?
Écoutez, un pot de 2,5 litres en mat chez nous, dans tous les bons magasins de bricolage qui l'ont, mat sans effet, elle est à 39 euros.
Oui, donc, c'est ça.
Voilà, c'est pas...
Et avec 2 litres et demi, on fait combien de mètres?
On fait 10-12 mètres carrés en une
seule couche. Donc ça veut dire qu'on fait 5 mètres carrés, puisqu'on va en mettre deux couches.
Hein, ou en deux couches, ouais.
Excusez-moi, mais 40 euros ou 39 euros pour peindre 4 mètres carrés, on ne peut pas dire que c'est forcément...
C'est de la peinture mate, couvrante, voilà, on peut faire tout à fait une couche et la laisser en une couche.
Oui, bien sûr.
Elle est très épaisse, la nôtre. Hein. Elle est très
épaisse. Cela dit, vaut mieux mettre un petit peu plus dans le prix et avoir quelque chose de correct, parce que c'est vrai que c'est quelque... Enfin, c'est quand on peint une pièce, c'est ce qu'on voit en premier.
Non, mais moi, je trouve que 39 euros, c'est un bon prix.
C'est vrai que c'est pas donné.
C'est pas donné.
On n'est pas la bas de gamme, on n'est pas la haute gamme, on est entre deux gammes. Voilà.
Parfait. Oui, Yannick est avec nous, 32-16, Christian.
Je voudrais poser une question sur les aérosols.
Eh bien, juste après, si vous voulez. Yannick est là, bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour.
Yannick, on vous écoute.
Merci. En fait, je suis en train de repeindre l'intérieur de ma maison et il y a un mur où je souhaite mettre des posters en mosaïque et les recouvrir d'une protection étanche. Alors, je ne sais pas s'il y a une peinture incolore qui existe, une laque ou un vernis.
Ça s'appelle un vernis?
Ouais. Alors, attendez, si j'ai bien compris, vous voulez poser des posters sur votre mur et les recouvrir de vernis, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, je veux, comme du papier peint au niveau des posters, et recouvrir une couche de vernis. Après, est-ce qu'il y a des vernis qui donnent une tendance sépia ou un vernis incolore, en fait, pour les protéger de l'étanchéité, de l'humidité?
Un vernis incolore en phase aqueuse uniquement, parce que sinon, ça va vous jaunir et vous transformer la couleur de votre poster.
Ah, d'accord.
Ça, c'est donc, il faut bien regarder... nous, on en a dans notre gamme, c'est des pots bleus. Vous l'étalez avec un petit rouleau, comme un petit rouleau laqueur, sans trop le tendre.
De toute façon, vous savez, la différence entre un vernis et une peinture, c'est que c'est la même chose, sauf que dans la peinture, vous avez une charge, donc avec des pigments, et qui vous donne donc une opacité et une coloration. Mais sinon, peinture et vernis, globalement, c'est la même chose. Après, ce qui change, c'est effectivement le solvant, si c'est de l'eau, c'est les résines, etc.
D'accord. Oui,
voilà. Sophie, vous avez un aérosol que je vois à plus.
Hein. Tout à
bon, alors il y a eu la chasse aux aérosols, à une certaine peinture aérosol. Et là, vous avez maintenant des peintures aérosols en phase aqueuse et qui peuvent se permettre d'être. On voit sur votre aérosol, on voit le petit logo A+. C'est nouveau ça, parce que jusqu'à présent, on faisait encore la chasse aux aérosols.
Alors, on faisait la chasse aux aérosols, tout à fait. Tous nos aérosols sont normalisé avec des sigles, etc. Celui-là, c'est le dernier né, c'est le petit bébé de la maison qui s'appelle Col Air, qui est 100% à l'eau, donc qui n'est pas à plus, qui est zéro. 100% à l'eau, c'est le seul qui existe aujourd'hui sur le marché, qui est pulvérisable à l'intérieur, sans odeur, qui ne nuit pas à l'environnement et qui a la même... le même pouvoir couvrant qu'un aérosol solvanté.
D'accord. Alors ça sert à quoi? On peint quoi avec ce type d'aérosol?
Essentiellement, on peut peindre.
Alors, comme on a la radio, imaginez, c'est une grosse bombe insecticide, oui, c'est à peu près ça.
On l'utilise plutôt pour des petits objets, on va dire. On va pas repeindre un mur. Hein.
On va pas repeindre un mur, à moins qu'on ait un panneau qu'on veut faire
des baguettes. Chose. Voilà. Mais aussi des équipements. On peut repeindre un frigo, par exemple, avec ça.
Non. On a l'aérosol spécial frigo.
Ah oui. Et là, on est
ça,
sur du
solvanté. Ça, on peut repeindre. Je vois bien une maman qui va avoir un bébé, qui a fait de la récup.
Qui veut repeindre son bébé.
Non, va repeindre le lit, la commode, etc. On cherche toujours à mettre une peinture que l'enfant va pouvoir mordiller sans crainte. Voilà.
Ça, donc on peut repeindre un petit meuble avec ça.
Tout à fait.
C'est tout à fait. Oui.
Tout à fait.
Mais il faut bien le préparer quand même. La sous-couche reste nécessaire sur un meuble en bois brut.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, même en bois brut. Moi, quand je le fais en démonstration au magasin, ça marche très bien. Ça couvre, ça se tend bien au séchage.
Mais il faut avoir peut-être le bon geste, non? Comment ça se passe, ce truc-là? Il faut.
Alors, maintenant, on vend des petits pistolets qu'on met sur la buse,
d'accord,
qu'on a fait exprès,
ouais,
qui se mettent dessus et qui vous permet d'avoir un geste très, très
fluide,
très, très fluide pour ne pas faire de couleur.
C'est le même principe, de toute façon, que le pistolet.
Le pistolet à peinture. On n'a pas parlé du pistolet à peinture, tiens, Christian.
Non, il faudra en faire une émission spécifique, parce que c'est vraiment tout à fait particulier, la peinture pistolet. Mais les deux règles, c'est une bonne distance, les trois règles, c'est la régularité du mouvement, et essayer d'avoir de bloquer le poignet pour éviter d'avoir un angle qui ne répartirait pas bien la peinture.
D'accord.
Voilà, ce sont mes conseils.
Parfait. Merci beaucoup, Sophie.
Merci, Sophie Bégani, responsable de secteur chez Rustoleum.
Christian, votre coup de gueule maintenant.
Alors,
et là,
vous
avez l'autorisation, vous pouvez vous énerver.
Voilà, alors c'est l'explosion de la taxe foncière dans certaines régions déjà, et qui préfigure ce qui va certainement se passer. Parce qu'on a parlé de la disparition de la taxe d'habitation, et bien voilà la taxe foncière qui bondit. Alors, ça vient d'être le cas, par exemple, en Rhône-Alpes. Alors, la raison invoquée par le fisc, c'est une revalorisation de la valeur locative suite à une rénovation ou à une amélioration de l'environnement du bien, comme l'arrivée par exemple de nouveaux moyens de transport, d'équipements municipaux ou autres. Alors ça veut dire que si vous rénovez bien votre appartement, on va vous dire, si vous avez deux salles de bain alors que vous n'en aviez qu'un petit cabinet de toilette avant, on va vous dire, ah, la valeur locative a augmenté, c'est-à-dire la valeur sur laquelle vous êtes supposé pouvoir louer votre bien. Alors ça fait des dizaines d'années que la valeur locative des habitations, certes, n'a pas été réévaluée, alors que la valeur de l'immobilier, donc des loyers, la fameuse justement valeur locative a flambé dans de nombreuses régions, notamment dans les grandes villes. Alors on peut se demander si l'État ne compte pas reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre en supprimant la taxe d'habitation. C'est tout à fait probable. Alors il est pratiquement en 2020, il va y avoir un vaste mouvement de revalorisation de la valeur locative des biens, et donc la taxe foncière va suivre. Mm-hmm. Elle va augmenter assez considérablement. Et on peut se demander s'il n'y a pas là un plan pour récupérer, je dirais, l'exonération des plus-values sur l'habitation principale. Et si au moment où on va vendre sa maison, il ne va pas y avoir un coup de bâton pour le successeur de taxe foncière, en disant, ah ben écoutez, on en profite, on fait le point. Cette maison-là, il y a 20 ans.
Ne leur donnez pas de mauvaises idées comme ça.
Mais non, c'est pas la peine. Ils l'ont déjà,
ils l'ont déjà.
Ah ben oui.
Christian.
Donc ça me plaît pas.
On se retrouve samedi prochain.
Bien sûr,
on sera là à 7h-8h sur RMC. Et dans un instant, après la météo et les infos et l'actu sport, Christian Riquia prendra le relais. Une heure de forme et de santé. Christian va nous donner tous les bons conseils pour bien attaquer cette rentrée. À tout de suite.